14 avril, ici Maxime Lachance, voici les nouvelles. C'est aujourd'hui que s'ouvre le procès de Donald Trump à New York. Il devient le premier ancien président américain à faire face à la justice pénale. 34 accusations de falsification de documents pèsent contre lui. L'affaire concerne des paiements destinés à acheter le silence de l'ancienne vedette du X, Stormy Daniels, avant l'élection présidentielle de 2016. Les procédures débutent avec le choix du jury qui devrait s'étendre sur plusieurs semaines. Richard Châteauvert, correspondant à New York.
Des milliers de candidats jurés vont défiler par groupe. Ils devront répondre à 42 questions. On ne leur demandera pas s'ils ont voté ou non pour M. Trump, mais plutôt quels médias ils consomment, s'ils sont supporters ou adhérents des groupes d'extrême droite QAnon, Proud Boys ou Oath Keepers, ou du groupe d'extrême gauche Antifa.
Nouvelle mesure pour améliorer l'accès aux soins de santé mentale à Montréal. Le ministre délégué à la Santé, Lionel Carman, a annoncé l'injection de 40 millions de dollars, dont la moitié sera attribuée à un programme spécifique aux jeunes de 0 à 17 ans. L'autre 20 millions servira à soutenir les patients hospitalisés à domicile, à assurer le lien entre l'hôpital et les services en externe et à poursuivre l'accueil des patients à l'unité d'hospitalisation brève pour ceux qui n'ont besoin que d'assistance pour se stabiliser. Pour le ministre, ces investissements permettront de ne pas échapper de patients.
Trop souvent, on a eu des histoires où un patient est tombé entre deux chaises dans son suivi, après avoir quitté l'hôpital, soit de l'urgence ou d'une hospitalisation. Là, maintenant, les établissements vont être responsables de ce suivi jusqu'à la transmission soit à l'équipe du CLSC, soit à l'équipe du psychiatre ou du psychologue.
Une coroner joint sa voix à celle de 9 maires des Laurentides qui implorent Québec de rendre l'autoroute 50 plus sécuritaire. Maître Denise Langelier a eu à se pencher sur de nombreux accidents mortels sur l'autoroute Guy Lafleur au cours des dernières années. Selon la coroner, le gouvernement doit prendre des actions rapidement pour éviter d'autres morts.
Je vais m'asseoir avec le ministère pour leur demander qu'est-ce que vous pouvez faire, malgré le fait que vous faites des travaux sur 10 ans. Le travail est colossal. Est-ce qu'on peut avoir quand même des mesures de sécurité, soit améliorer la patrouille de la Sûreté du Québec sur l'entièreté de l'autoroute, et également, est-ce que le ministère peut faire quelque chose pour rendre l'autoroute plus sécuritaire?
L'autoroute 50, tristement surnommée l'autoroute de la mort, a déjà fait 4 morts au cours des derniers mois. La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris prévue sur la Seine pourrait être déplacée si les risques liés à la sécurité sont trop élevés. C'est ce qu'a soutenu le président français Emmanuel Macron à une centaine de jours du coup d'envoi des Jeux de Paris. En entrevue avec les médias français BFM TV et RMC, M. Macron a mentionné que la cérémonie sur la Seine est toujours à l'horaire, mais que d'autres options seront prêtes aux besoins.
Il y a des plans B et même des plans C. Je vais être très clair avec vous. Ouais. Et on les prépare en parallèle. On a une cérémonie qu'on prépare qui serait limitée au Trocadéro, par exemple. Et donc, on ne ferait pas toute la Seine, voire qui rapatrierait dans le Stade de France, parce que c'est ce qui se fait classiquement.
La France a relevé son niveau d'alerte de sécurité à son plus haut niveau après l'attaque meurtrière contre une salle de concert en Russie, survenue en mars. Le fabricant automobile Tesla annonce le licenciement de 10 % de ses effectifs. Plus de 140 000 personnes travaillent pour l'entreprise à travers le monde. L'annonce survient alors que les ventes du fabricant sont au ralenti. Le titre de Tesla en bourse a d'ailleurs perdu plus de 30 % de sa valeur depuis le début de l'année pour atteindre 171 $. Des analystes estiment que l'entreprise a terminé sa phase de croissance et tente de réduire sa structure de coûts avant de lancer de nouveaux modèles. Vous écoutez Cogeco Nouvelles.
C'est le printemps. Venez rencontrer l'équipe des services Véro de Montjoly pour vos besoins en pneus. Des pneus de marques réputées comme Michelin, BF Goodrich et Uni-Royal sont disponibles avec des rabais postaux allant jusqu'à 100 $. Plusieurs autres marques sont proposées à prix compétitif. Prenez rendez-vous au 418-775-3308. Les services Véro de Montjoly pour un service impeccable au 1199 boulevard Jacques-Cartier à Montjoly.
Cet été, roulez en toute tranquillité avec Mécanique PR, Docteur du pare-brise, spécialiste des accessoires automobiles. Nous sommes là pour vous offrir une expérience de conduite incomparable. Besoin d'un pare-brise impeccable pour profiter de la vue panoramique de l'été? Nous sommes là pour une réparation rapide ou un remplacement complet. Notre équipe qualifiée s'occupe de tout. Envie de donner fière allure à votre camion? Nous assurons la mise à niveau de vos suspensions. Découvrez notre sélection de roues pour un look qui fera tourner les têtes. Passez chez Mécanique PR, Docteur du pare-brise, 55 boulevard Sainte-Anne, Rimouski.
Réveil Rimouski vous parvient en direct du studio Mec. McDonald's du lundi au vendredi de 6h à 10h. CFIX FM 93.
Jusqu'à 15h, vous écoutez Sans réserve.
Sans réserve.
L'émission d'affaires publiques. Voici Luc Ferrandez.
Nous aurons tôt ou tard le devoir de former la plus grande coalition pour le oui que le Québec n'aura jamais connu et le devoir de gagner. C'est ça le choix qui nous attend dans les prochaines années.
Là, on a Jérémy Filosa qui était dans la foule. Il a été vu au congrès du Parti québécois en train de chanter Jean du pays. Bonjour, Jérémy.
Salut,
Jérémy.
Salut,
salut. T'es-tu reposé de ta fin de semaine?
Eh, bon boy. Non, je pense que tu te trompes, là.
Je sais pas si le bon Jérémy.
Un sosie en quelque part. Non, je
sais pas. Non, mais j'ai mal lu. C'est le petit Jérémy. Excuse-moi.
Ah, bon. OK.
Alors, pour parler du référendum, le retour du référendum au Québec, nous avons autour de la table, vous l'avez entendu, Jérémy Filosa, Geneviève Peterson, Marie-Ève Tremblay, Philippe Léger, bonjour.
Bonjour. Toi, Luc, étais-tu dans la salle en 1976?
Tu dis,
le 15 novembre 1976.
Moi, j'avais le Québec tatoué sur le cœur, moi.
Puis t'étais là, sur place?
Non, j'étais pas dans la salle, mais j'étais au centre Paul Sauvé quand Gilles Vigneault a pris la défense de la loi 101. Gilles Vigneault qui avait dit, avec sa voix éraillée, pendant des siècles, les murs ont été à la défense des langues. Aujourd'hui, la langue est à la défense des murs. J'avais trouvé que c'était un grand poète. Et puis, écoute, j'avais réussi à me faufiler, mais j'étais écrasé contre le mur, là, je te dis.
Fait que là, on était en 1978, là, 1979.
Ouais. Écoute, j'avais 16 ans, j'étais allé là tout seul. Ouais. Puis, je voulais l'entendre. Je voulais le voir.
T'avais ta carte de membre,
J'avais pas ma carte de membre, mais ça jouait fort à la radio, ces affaires-là. Hein. C'était intense, là. C'était.
Puis qu'est-ce qui te ralliait à la cause, toi, à l'époque?
Eh bien, écoute, il y avait un vent fort là, qui transportait tout le monde vers la cause parce qu'il y avait cette idée-là. D'abord, tu sais, c'était un Québec en mouvement dans les années 60-70, la création des ministères, la volonté de s'en sortir de siècles de misère, puis qu'il y a une misère toute proche de nous encore, là, la Côte-Champlain, le monde n'était pas riche là-dedans, là, l'Est de Montréal, ma mère venait de là, puis de très, très pauvre, là, une famille de 5 enfants, le père mort, pas de système sociaux. Et c'était pas l'impression de juste créer un pays, c'était l'impression que tout le monde allait s'en sortir individuellement en créant un pays.
C'est-à-dire que en étant ensemble.
Une immense social-démocratie parce que tout le monde avait dans sa famille des gens qui avaient souffert, qui étaient pauvres, qui étaient démunis, pauvres, en détresse ou sous-éduqués. Moi, j'ai toujours dit, dans un Québec des années 50, mettons, aussi loin que tu puisses regarder, il n'y avait personne dans ta famille qui faisait partie d'un orchestre symphonique. Il y a la personne qui avait été général dans l'armée, il y a la personne qui avait été ambassadeur. Le plus que tu peux avoir, c'est peut-être ton oncle qui avait eu un garage de skidoo. Ça a été l'élite. Ça aurait été le top du top, là.
Ben, c'est fascinant, parce que, tu sais, les années que tu fais référence, je pense qu'en 2024, on ne se rend pas compte du bon qu'on a fait dans ces années-là, 1960, 1970, où la question de l'indépendance était dans les parages, mais le bon immense qu'on a fait, avec la commission, je pense que c'est Laurando Dundon, qui évaluait chaque groupe culturel, leur niveau de richesse, d'avancement. Et les francophones au Québec étaient le dernier groupe. Je pense qu'il y avait simplement les Portugais qui étaient
J'aime pas ça de contredire, c'est la commission Parent.
La commission Parent?
Oui.
C'est Parent, bon.
Oui.
Bon.
Non, t'étais pas loin.
J'étais pas loin, Parent. On est dans les mêmes années.
Ouais. T'étais pas né, c'est l'exemple.
C'est ça, j'ai le droit. J'étais pas né, mais c'est ça pour dire qu'on se rend pas compte du bon qu'on a fait en quelques années de se créer un État, de se sortir de la misère collectivement. En quelques années, on s'en rend pas compte, là. Tu sais, en 1959, 1960, à 1980, en 20 ans, au Québec, il s'est passé quelque chose. Ça doit être dans les palmarès de l'avancement des sociétés. Ça doit être notre société, c'est elle, probablement, qui s'est avancée le plus rapidement en quelques années, là. C'est fascinant, là.
Puis justement, moi, je me demande, semble comme cette société a beaucoup avancé, qu'on est moins dans la misère que tu décris. Est-ce qu'on peut encore arriver à rassembler les gens, les citoyens autour de tout ça?
D'autant plus qu'on n'a pas de stade de baseball.
Eh, boy.
Je pense que le mot vague est tout à fait indiqué pour parler du nationalisme au Québec. Moi, je me rappelle en 95, le référendum organisé par Jacques Parizeau. Moi, j'avais 13 ans. Évidemment, je pouvais pas voter, mais tu sais, tu parles d'un mouvement, puis il y a aussi un effet... peut-être qu'un effet de mode, c'est mal choisi, mais moi, je le vivais vraiment comme ça. T'étais cool si t'étais dans le camp du oui. Puis moi, ça offensait profondément mon père, qui était un féru fédéraliste, qui votait libéral depuis Mathusalem. Puis j'avais volé une pancarte. Il y avait des pancartes pour le oui.
Pas du monde, toi.
Non, écoute, c'est une de mes principales qualités et aussi mon principal défaut. Donc, j'avais volé cette pancarte avec la grosse fleur blanche. Je sais pas si vous vous en rappelez. Puis j'avais affiché ça dans ma chambre. Ah. Ça avait créé une crise... familial, mais après, on dirait que mon désir d'indépendance s'est étiolé peut-être avec l'âge adulte, puis aussi parce que je pense que, comme la majorité des Québécois, bon, il y a eu les déclarations de M. Parizeau sur le fait qu'on avait perdu le vote à cause des communautés culturelles, et là, on dit que...
ethnique.
Oui, absolument, puis là, il y a eu toute cette espèce de d'emportement dans la charte des valeurs et tout ça, fait que je pense qu'ils ont perdu beaucoup de gens, mais c'est drôle, on dirait que la CAQ a travaillé pour Paul Saint-Pierre Plamondon, parce qu'on le sait que M. Legault, quand même, il y a des velléités souverainistes, avait, bon. Hein. Et puis, on dirait qu'ils ont su ramener ça, ils ont soufflé sur les braises du nationalisme pendant la pandémie. Puis là, j'ai l'impression que, comme disait Marie-Ève, on s'en était désintéressé. Mais là, j'ai vraiment l'impression que c'est revenu. Il y a quelque chose en moi qui sent ça. Je dis pas que moi, je le sens pour moi. Moi, je dis rien. Mais il y a quelque chose dans l'air du temps qui a changé par rapport à la question nationale au Québec.
Puis j'ai l'impression qu'on a envie de vivre quelque chose comme collectif.
Tout va tellement mal, on se dit que ça peut pas être pire.
Ben oui,
il y a rien de bon sur Netflix depuis une couple de semaines.
Non, mais on dirait que c'est l'envie qu'on a, qu'on soit pour le oui ou pour le non, des discussions en profondeur avec une issue incertaine.
Marie-Ève et Geneviève, votre position commune, je la remets un petit peu en cause en se disant, nous sommes tous des deux souches autour de la table, mais au téléphone, il y en a un qui a point de souche.
Ouais. Fédéraliste à l'os, jusqu'à la mort.
Mais moi, j'ai pas dit que j'étais souverainiste non plus, en analyse, de l'air du temps.
Mais toi, t'as sens-tu, toi, dans ton bord, là, cette vague du retour?
La première chose, c'est que, tu sais, on dit aujourd'hui, c'est la dernière chance. Ça va être la dernière chance. Je sais pas pourquoi on dit ça. Je veux dire, qu'est-ce qui nous dit que dans 20 ans, dans 30 ans, il n'y en aura pas un autre? On le sait pas. La vie change, les coutumes changent, les habitudes changent. Mais la question importante, le vote ethnique. Et ça, non, mais c'est vrai. C'est ça, la question, selon moi, c'est que là, depuis 20-30 ans, ceux qui sont rentrés au Québec, ce sont des francophones, ce sont des Français, des Marocains, des Libanais, des gens de toutes sortes de cultures, des Haïtiens qui sont entrés ici, qui sont des francophones. Mais sont-ils des souverainistes? Ont-ils ce désir-là, eux, de voir le Québec se séparer? Ou est-ce qu'ils se sentent bien et à l'aise en tant que Canadiens et bien au Canada? Et la réponse, je ne la connais pas, je le sais pas, mais j'ai comme l'impression que je penche vers le côté du fait que la majorité d'entre eux ne seront pas nécessairement pour la souveraineté.
Mais j'ai une question pour toi, Jérémy. Ouais. Ça me fait penser, pendant que tu parles, oui, ceux qui sont arrivés, mais les enfants de ces gens-là, qui sont des fois de deuxième, troisième génération, ouais. Est-ce que ça peut être différent? J'imagine que le rapport au Canada puis au Québec n'est pas le même quand tu es né ici.
Ben oui, moi je suis né ici, mais c'est sûr que tu sais, dans une maison, ayant grandi dans une famille italienne, disons que ça votait libéral pas mal dans notre coin, il y avait pas vraiment d'autres possibilités.
Mais ton fils, par exemple, tu sais.
Ben, oublie ça, mon fils est libéral à l'os. Il est fédéraliste à l'os, à l'os, à l'os. Il peut même pas encore voter, puis il a hâte. Il m'en parlait aujourd'hui quand j'ai dit c'était quoi le sujet du tour de table.
Oui, fait que... on aurait dû l'inviter. J'ai eu des discussions avec des gens issus de l'immigration ou de deuxième, troisième génération, puis ils sont arrivés au Canada. Puis ça, là, ça persiste. C'est le papier là d'immigration. C'est quand même le Canada là, qui reconnaît la citoyenneté. Puis ça, j'ai l'impression qu'il y a une très grande reconnaissance envers le pays.
Sauf que je ne sais pas. Je ne sais pas c'est quoi la réponse par rapport aux nouveaux groupes d'immigrants qui sont arrivés dans les 20-30 dernières années. Puis ça, c'est une question hyper importante.
Ceci étant dit, quand on regarde, quand on analyse le vote des immigrants de deuxième, troisième génération, c'est sûr qu'il y a une propension à voter, notamment pour des partis un peu plus fédéralistes, mais ça tend à diminuer de plus en plus. Hein. Quand, par exemple, un fils d'immigrant de deuxième, troisième génération passe par l'école francophone, a un entourage qui est tout à fait avec des Québécois, peu importe la façon dont on le définit, il tend à avoir un comportement politique qui est comme ceux qu'on pourrait dire des natifs ou de souche, peu importe c'est quoi le qualificatif, ça tend à se ressembler, peu importe quand les générations, quand on est rendu à la deuxième, troisième, même qu'on peut parler de quatrième génération au Québec, là, de certains immigrants. Donc, ça tend à se diminuer de plus en plus. Moi, sur le discours de PSPP, moi, j'ai de la misère à reprocher à un politicien de, je pense qu'on peut l'analyser de deux façons. J'ai de la misère à reprocher à un